France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie von Otter. Je suis née un joli jour de mai, il y a longtemps, à Stockholm, Suède, et je suis chanteuse lyrique.
Anne-Sophie von Otter, il y a ces rôles, vous en avez évoqué quelques-uns, c'est Stowe, Chérubin, il va y avoir Octaviane aussi. Il y a toute une partie de rôles que vous allez chanter qui sont des rôles de travestis. C'est votre voix aussi qui impose ce genre de répertoire. Là, c'est quelque chose qui vous intéressait théâtralement, ou c'était la musique avant tout de ce Chérubin qui l'emportait?
Non, mais j'ai un maître... 82 cm. Alors, pour moi, c'était plutôt facile de chanter un jeune homme qu'une jeune femme parce que, les hommes avec qui j'ai chanté, Dolabella, par exemple, ils étaient tous plus petits que moi. C'était plus facile, plus confortable et j'aimais. Et aussi, ma voix est mezzo lyrique. Alors, c'est parfait de chanter les travesties de Mozart. Mais comme ça, j'ai pas chanté Rossini, etc. Mais I don't mind.
Ça vous a pas manqué?
Non. Rossini, ça fait plaisir d'entendre avec d'autres chanteuses, mais j'ai pas besoin de chanter moi-même.
Sur ces rôles-là que vous avez chantés, et c'est d'ailleurs aussi beaucoup comme ça qu'on vous a connu avec ces premiers rôles de Chérubin.
Oui, c'était ma carte de visite, business card. Et je l'ai chanté à Marseille d'abord, puis à Bâle, mais c'était quand je le chantais avec Colin Davis à Royal Opera House Covent Garden que c'était vraiment mon breakthrough. Après, mon nom était un peu connu par ça. C'était vraiment très utile.
Cette carte de visite, c'est l'occasion, en effet, d'arriver dans les grandes salles. C'est quoi vos souvenirs quand on arrive pour la première fois au Met, à Covent Garden, à Milan, à Berlin, dans ces grandes salles?
Oh. Bien sûr que j'étais contente d'avoir du travail à New York, le Metropolitan, parce que je suis quand même un peu, je pense, concurrence. J'ai des elbows.
Des coudes.
Oui. Il faut être un peu ou beaucoup égoïste dans ce métier. Il faut se mettre en avant, souvent. Ah oui. Mais en même temps, je sais pas, si je chante, je suis contente et voilà. Je ne suis pas dans cette profession parce que je veux absolument chanter à la Scala. Je suis chanteuse lyrique parce que je adore la musique. Je ne peux pas vivre sans la musique. Et ça me donne satisfaction, des émotions tristes, heureuses et tout entre les deux. Je pense honnêtement que j'aurais pu être contente même en chantant, je ne sais pas, seulement l'oratorio et des leads dans les salles plus petites. Vraiment.
Souvent, les chanteurs disent que c'est une vie d'ascète, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à sa voix, ne pas parler trop, oui. Ne pas fumer, etc. Vous avez vécu ça avec une part de...
Grande conviction. Non, j'étais un peu naughty et j'ai fumé un peu parfois. Je trouvais ça très cool, très sexy, mais... pas aujourd'hui, mais... Et aussi, ça arrivait que j'ai bu un peu. Je sais que quand j'ai fait une concurrence, une...
Un concours ?
Un concours. En Angleterre, j'ai été absolument sous la veille, c'est ça ? Oui. Mais j'ai gagné, quand même. Quand on est jeune, on peut faire des choses comme ça. Mais c'est pas... quelque chose que je recommande.
Parce qu'on se souvient, Christa Ludwig était au même micro que vous il y a quelques années et elle disait qu'elle elle parlait pas du tout.
Oui, elle a sifflé à la maison, elle a sifflé, ou elle a écrit des petites notes, mais elle n'a pas parlé. Mais on est tous différentes. Elle a quand même chanté des rôles très très difficiles, même quand elle avait 60 ans. Pour moi, je ne sais pas. Quand mes enfants étaient petits, c'était terrible d'être enrhumée parce que des enfants petits sont toujours enrhumés. Et c'était difficile. Mais j'ai chanté Chevalier à la rose avec des rhumes. Et normalement, ça marche. C'est pas, on n'est pas contente, on n'est pas heureuse d'être enrhumée, mais on peut. Si c'est pas sur les bandes.
Les cordes.
Oui.
Quand vous êtes en effet dans la carrière, vous le dites, vous avez des enfants. Ça, c'est difficile de partir de chez soi pendant un mois, deux mois, de revenir.
Je ne partais pas pour un mois, deux mois sans mes enfants. J'ai fait beaucoup aller-retour. J'ai fait la navette, oui, beaucoup plus que mes collègues. Et je suis très contente et très assez fière d'avoir fait ça parce que je ne peux pas imaginer le contraire d'être partie pendant deux mois pour des petits enfants. Ça doit être un peu étrange quand même. Et ils sont venus me voir aussi beaucoup, mes deux fils, mes garçons, jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas dit que « Oh, tu n'étais pas jamais là ». Je pense que pour eux, c'était normal. Mon mari était toujours là pour les réveiller et le soir pour les coucher aussi. Non, ça marchait. J'ai des collègues ça leur stresse trop de faire l'aller-retour ou de ne pas dormir parce que les enfants sont malades, des choses comme ça. Mais moi, je suis assez équilibrée, je crois. Pas dans tous les sens, mais dans ce sens-là, avec les enfants, voilà, ça a marché.
Thank you.
Il y a un personnage qui est très important quand on est chanteur d'opéra, c'est le chef de chant.
Oui.
Vous avez rencontré Jeanine Rice.
Ah oui. Elle était incroyable. J'ai adoré Jeanine Rice. On a ri beaucoup, mais elle connaissait ce rôle que j'ai étudié avec elle. Mélisande, Carmen, l'heure espagnole. Ça a commencé avec Luc Orphée à Genève. Non. Je me souviens plus. Mais elle était très très bien et une grande dame, très élégante. Et j'étais parfois chez elle à Paris. C'était vraiment une ère de dame parisienne dans ses costumes, pas costumes,
ses vêtements,
ses
tailleurs.
Vêtements de Chanel. Non, je garde beaucoup de souvenirs d'elle et je suis triste qu'elle n'est plus là. Et elle m'a vraiment aidée avec le répertoire français.
C'était quoi? C'était dans le style?
Oui, le prononciation, bien sûr, mais le style et les pensées, comment elle pense Carmen, elle a rencontré, comment elle a travaillé avec Maria Callas, par exemple. Ça, c'était des anecdotes très intéressantes aussi. Mais comment on doit réfléchir et beaucoup de choses différentes. J'essaye moi-même de ne pas oublier ce que m'a dit. Comme ça, je peux peut-être passer à une autre génération. J'aime beaucoup enseigner, d'ailleurs. C'est pas facile. Ça prend beaucoup de force, énergie. Je suis morte après. C'est très, très fatigante, mais aussi inspirante.
Oui, vous aimez la transmission.
Oui.
Et qu'est-ce que vous aimez à ce moment-là transmettre? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est le style?
C'est un peu la technique parce qu'on peut pas éviter. Mais pour moi, c'est de faire la mathématique. 2 et 2 doit être 4. Avec une pièce de musique, on fait la mathématique. On a les notes là imprimées. On a toutes les instructions de chanter fort, de chanter avec legato et tout ça. On a le texte. Notez bien que je dis d'abord la musique et puis le texte.
C'est Strauss, c'est ça?
Oui. Mais pour moi, c'est un peu laboratoire. Pour moi, c'est le travail de regarder ce que d'abord le compositeur a pensé. Puis, quand j'ai bien regardé ça, 1000 fois et encore 1000 fois, je pose mon propre interprétation dessus. Non, pas dessus, dedans. Mais ça peut durer. Et aussi, je dis souvent, je dis que pour la public, on doit varier le son, les phrases, le phrasing, parce que sinon, c'est ennuyeux. Une belle voix et de faire tout correctement, ça suffit pas. Il faut entertain the ear.
Divertir.
Oui.
France Musique, les grands entretiens d'Anne-Sophie von Otter.
Les jeunes chanteurs et les jeunes musiciens, aujourd'hui, ils ne sont pas très à l'aise avec le rubato. Rubato, ça veut dire que tout n'est pas dans un métronome, pap, pap, pape, mais on est plutôt libre avec le rythme. Et le jeune chanteur, ça c'est un peu étrange pour eux. Aussi la façon de entrer dans un ton, on peut entrer directement, pas, ou un peu dessous, pas, ou avec un grand portamento, on peut faire mille choses avec chaque ton. Et c'est ça que je nomme le mathématique ou cuisinier. Parfois, je parle de faire la cuisine avec énormément d'herbes et ingredients.
Des ingrédients.
Et c'est stimulant tout ça, mais il faut, ou on doit être né avec ce don de cette capacité, ou il faut le trouver, le chercher.
Vous disiez que vous étiez très forte en imitation. Vous pensez que l'imitation, c'est quelque chose qui a sa place dans l'enseignement ?
Oui, bien sûr. Imiter, c'est il faut imiter. Il y a des chanteurs qui sont nés comme naturels. Ils sont des nature childs. Ils ont leur propre voix quand ils sont très jeunes. Mais pour la plupart, il faut imiter et penser, réfléchir et imiter de nouveau et puis trouver son propre voix. Et moi, j'ai imité beaucoup Christa Ludwig. Et qui encore est-ce que j'ai imité dans le classique? C'est plutôt elle. Toujours. J'écoute Christa Ludwig en regardant comment est-ce qu'elle fait ça, comment est-ce qu'elle chante Wagner, parce que là, c'est pas ma petite rue, Wagner, et aussi pour Mahler, elle m'a beaucoup appris quand j'ai écouté ses enregistrements. J'ai pas pris des classes avec elle, mais elle était ma grande shining star.
Votre phare.
Oui.
On a parlé de la transmission, Anne-Sophie Fonauteur, de l'intérêt, par exemple, de l'imitation dans la transmission. Et je me demandais quelle était la place de l'imagination aussi.
Imagination, bien sûr. J'appelle ça créativité. Imagination a quelque chose un peu... il faut avoir imagination. Mais créativité, c'est justement quelque chose qui est fluide. Et qui vient et je trouve que la créativité c'est pour moi très très importante et je le trouve assez facilement la créativité et on peut dire que c'est un peu la même chose que imagination mais imagination c'est plus libre encore c'est plus grand et créativité c'est dans la rue la route de ce qu'on a comme mélodie ou air ou opéra et on explore là.
Et il y a une place pour l'abandon. On peut s'abandonner, on doit s'abandonner.
On peut discuter ça longtemps comme chanteur. On peut pas totalement s'abandonner parce que de chanter c'est toujours une quelque chose de très précise. Et aussi, pour moi, j'aime bien les comédiens et les musiciens qui on voit qu'ils savent exactement ce qu'ils font, mais ils sont libres. Liberté dans la vie culturelle, dans la profession de nous tous. C'est ça plutôt que à s'abandonner. abandonné est un peu over reclaimed, surréclamé.
Oui, ouais. Non, mais
il y a des gens qui pensent que c'est le absolument plus le top, le but, de s'abandonner, de oui. pleurer, de crier, de hurler, de être totalement folle sur scène, fou sur scène. Mais non, c'est pas ça du tout.
Ce qui est important, par contre, c'est de trouver sa propre liberté à l'intérieur du texte. C'est ça que vous appelez la créativité.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler et se préparer. Ce sont les deux clés pour être dans notre profession. Le but, c'est la liberté de savoir ce qu'on fait et le faire avec imagination, créativité et liberté. Égalité. Liberté, égalité, quel est le troisième ?
Fraternité.
Oui. Si on a des bons collègues, on peut vraiment avoir énormément de plaisir pendant le travail d'un spectacle, comme quand j'ai travaillé avec Christophe Martal et Willy Decker aussi. Et les gens qui aiment leur profession et le travail et qui aiment aussi les chanteurs ou les comédiens. Qui aime la musique, qui comprend la musique et qui donne un peu quand même liberté, mais qui savent ce qu'ils veulent. Plus ou moins, Christophe Martal donne énormément de liberté, mais c'est toujours vision.
Vous avez aimé travailler avec lui?
Ah oui, oui, oui.
Il a un rapport à la musique aussi très personnel.
Ah oui, je dirais qu'il est musicien aussi, on dit pas aussi beaucoup, comme on dit en français.
Autant
que metteur en scène. Il a commencé comme musicien, il a joué le hautbois, il était street musician, musicien dans la rue, et voilà, non, il adore la musique, il adore Schubert, Bach, etc. Ma fortune dépend, soyons intelligents, soyons intelligents.
Son discours n'a rien de tout.
Je le lui dirai.
Il de tout mot que je m'apprête.
Je le lui dirai.
De lui rendre sa politesse.
Je le lui dirai.
Je dis tout ça, mais là c'est ma parole. J'y dis qu'il ne comprend rien, mais là rien de rien. Et tout que diable, ici ma pâte à fiole. Si je connais cette personne. Eh bien. Dites-lui.
La Grande Duchesse de Gerolstein, mise en scène par Christophe Marthaler avec Anne-Sophie Fonauteur pour refermer le troisième épisode de ces grands entretiens avec la mezzo-suédoise. Équipe de réalisation, Lionel Quentin, Stéphane Beaufils, Claude Nior, Marie-Christine Ferdinand et Alice Escriou. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et sur l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.